un aventurier cynique qui ne pense qu'à gagner du fric et à réussir, et qui, tout d'un coup, accepte de mettre sa vie en jeu pour un idéal qui lui paraît correct. C'est un peu le sujet de Barracuda. C'est d'ailleurs le sujet de pratiquement tous mes films. C'est-à-dire un type qui, pour défendre une vérité à laquelle il croit, risque sa vie.
Comme il le raconte à Jean-Baptiste Torret en février 2016 dans Jamais sur vos écrans, Barracuda est l'un des nombreux projets de films jamais aboutis. Pourtant, ce réalisateur a marqué le cinéma français, et comment ? Bonjour et bienvenue dans cette 16e visite de la saison 8 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, c'est hommage à Yves Boisset, auteur important tant pour le cinéma que la télévision. Le jour même de sa mort, une décision judiciaire a envahi toute l'actualité. Hasard ou coïncidence ? Rien n'est moins sûr, pardi. Ce qui est certain, c'est qu'il ne se voyait surtout pas faire du cinéma engagé, la preuve en janvier 2012 au JT de 20h d'Élise Lucet.
Je pense que c'est un cinéma d'observation, parfois un peu narquoise, parfois un peu vitriolé, mais c'est pas un cinéma de combat, enfin je crois pas. Moi je me considère pas comme un cinéaste engagé, je me considère beaucoup plus comme un moraliste. C'est-à-dire, je pense que mes films sont plus des films de morale, le combat entre le bien et le mal, c'est ça la morale, et la politique n'est qu'un cas particulier de la morale.
Son premier grand succès est le film qui le fit connaître du grand public, date de 70. Dans ce film de commande, Michel Bouquet est un commissaire aux méthodes peu orthodoxes, quoique expéditives. Exemple quand il s'invite un soir chez les gros truands pour qu'ils lui livrent le nom de leur caïd. Le plus arrogant, c'est Henri Garcin, que l'on vit plus tard dans la sitcom Maggie.
Je vous propose un banco.
C'est avec votre paye que vous allez le tenir, le banco ?
Non. Je n'en ai pas les moyens. C'est un autre genre de banco que je vous propose. Un banco sans fric, mais plus intéressant.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Je veux le nom que le mandarin t'a soufflé hier avant de crever.
Et puis quoi encore ? Hier soir, votre ami, il a refusé notre collaboration. Et maintenant qu'il est mort par sa faute, vous venez le relancer ?
Le nom.
Ça, c'est notre petit secret.
À tous les deux ?
À tous les deux.
Alors, ce nom, comme tu veux. Je n'exige pas, je demande, c'est tout. Tu connais.
C'est un silencieux.
Et le revolver.
On dirait le mien.
Et celui qu'on t'a pris cette nuit. Tu vois, c'est simple. À 5, on tire. Comme au baccarat.
Vous avez fait vos classes à Chicago.
Tu as 5 secondes pour me donner le nom.
Aux 5 secondes, vous pouvez les compter tout de suite. J'ai dit non. C'est non.
Alors, c'est non. Tu avais dit 2 fois non, je crois. Regarde s'il est mort. Alors, ce nom ?
C'est Rover. Dan Rover. C'est Dan Rover.
Et l'autre ?
Je ne sais pas. Le mandarin n'a dit qu'un seul nom. Je vous le jure.
Et là, c'était Monsieur Piaf, alias Théo Sarapo, qui va laisser ses empreintes partout sur l'arme. et sans doute y passer aussi. Lequel Sarah Pau n'a tourné que deux films, puisqu'il a été victime d'un conducteur ivre en Limousin. La même année, il avait 34 ans. Le film remplit les salles et Yves Boisset enchaîne avec un autre polar d'un autre niveau. Sorti en 72, L'attentat évoque la disparition d'un opposant politique étranger en 65, 7 ans après. Vidéo de Lina, juillet 2023.
À la base de ce film, il y a un scénario de Ben Barzman, qui est un auteur qui a dû fuir le sol états-unien pour ses sympathiques communistes. On est à l'époque du McCarthyisme. Il va livrer une première version du scénario qui sera corrigé plus tard par Georges Semprún, qui est l'auteur espagnol qui sera ministre de la Culture en Espagne bien plus tard. Et donc ces deux noms-là ont déjà collaboré au scénario de Z de Costa Gavras.
Film cultissime et implacable sur la dictature des colonels en Grèce. Il reçut notamment des prix à Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger pour l'Algérie.
C'est le film reprend un petit peu des éléments de Z. On y retrouve Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal et un casting absolument dément, puisque pour l'épauler, il y aura Bruno Kremer et Michel Piccoli, qu'on verra plus tard dans Le Prix du Danger du même Yves Boisset. On retrouve également dans le film des stars américaines, hein, Roy Scheider, hein, qui sort tout juste de French Connection.
Vous vous emmerdez autant que moi. Michael Howard, American TV correspondent. J'écris aussi les bouquins très noirs et très porno pour me distraire.
Ou encore Gene Seberg, qui à l'époque est déjà empêtré dans les affaires un petit peu sordides d'addiction à la drogue. On pourrait également vous citer au casting Jean Bouise ou François Perrier, qui sont vraiment des gueules qui ont marqué le cinéma des années 70 en France. Mais il faut également parler du rôle principal avec Jean-Louis Trintignant, qui est donc joué par Gian Maria Volonté, cet acteur italien qu'on a découvert dans les films de Sergio Leone dans La gueule du méchant, et qui au moment des années 70 va devenir une sorte de porte-voix du film politique italien, du grand film politique italien, le film Dossier, La classe ouvrière va au paradis, L'affaire Mattei, sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, qui, comme les films de Yves Boisset d'ailleurs, sont des films qui s'attaquent vraiment aux problèmes politiques contemporains de l'Italie ou de la France.
Toute la droite l'accuse de gauchisme avec les mots de l'époque. La gauche lui reproche presque d'être trop commercial, car il engage pour le film Piccoli, Noiret et Trintignant.
La virilité, ça se porte pas sous les selles derrière. Ça se porte entre les jambes.
Musique hypnotique signée Morricone dans sa grande période post-western italien.
Qui a ébranlé la France de Gaulle. Ben Barka, c'était cet opposant au roi Hassan II du Maroc, qui était exilé alors en Europe et qui était une sorte de voix de l'anti-impérialisme, au même titre que Che Guevara ou que Patrice Lumumba, et qui a disparu donc en 65 à Paris, dans des circonstances encore mystérieuses.
Très récent, sur fond de post-colonialisme et même quelque part de guerre froide, il implique directement des agents français.
Nous sommes tout à fait couverts, monsieur Garçon. Confortablement.
Là, celui-là, il n'y a pas d'interdiction officielle sur le papier pour nuire au tournage, mais par contre, la préfecture de police va mettre des bâtons dans les roues de Boisset pendant le tournage, notamment devant la brasserie Lippe, hein, qui est la véritable brasserie à Saint-Germain-des-Prés, où a été enlevé le véritable Ben Barka. Et en fait, la veille du tournage de cette scène d'enlèvement, la préfecture de police a prétexté des problèmes de circulation dans Paris pour entraver le tournage, sauf que le propriétaire des lieux, que connaissait bien Yves Boisset, lui dira « Non, moi je suis propriétaire et techniquement vous avez le droit de tourner près de la vitrine sur un mètre de bande passante. » Donc le tournage pourra se faire grâce à des caméras embarquées et un petit peu en dehors de la police qui tournoyait vraiment autour du film pour le mettre sous séquestre, on va dire.
Assis, menotté, interrogé, l'étranger reçoit la visite de Piccoli qui, un couteau à la main, va lui ramener un souvenir d'Indochine, guerre où on servit, avant 54, des amis tels Alain Delon et Jean-Marie Le Pen, mais aussi le professeur Choron.
Où est-il ?
Là-haut. On a eu du mal à le faire tenir tranquille.
Juste pour le calmer. On pique légèrement la région du cœur, c'est radical.
Avez-vous installé des organisations secrètes pour affaiblir l'autorité du régime? Qui contrôle et finance ces organisations? Sous quelle forme recevez-vous de l'aide des pays de l'Est et de certains pays arabes? Avez-vous le soutien d'officiers qui pourra un jour, sous vos ordres, tenter un coup d'État?
Kassar, le colonel Kassar, c'est un spécialiste des complots.
Avez-vous des contacts avec des éléments de la police?
La police, elle peut s'attendre à une sérieuse épuration quand nous serons au pouvoir. À quoi es-tu en train de jouer? Tu es dans les brigades spéciales quand t'as appris ça?
On allait en Chine avec nos amis français.
Nous n'avons pas les mêmes amis.
Laissez-nous.
Imaginez Camping, mais avec de gros racistes à la place de Franck Dubosc et Gérard Lanvin.
Des jours comme ça pour interdire aux Allemands de rouler.
C'est l'histoire de Dupont-la-Joie, film culte mais un peu oublié des années 70, réalisé par Yves Boisset. Comme Claude Brasseur dans Camping, Jean Carmet alias Georges Lajoie part tous les étés au soleil avec sa caravane. Sur place, il retrouve les Colin et les Schumacher pour un mois d'apéro et de grands moments de philosophie.
Vous savez, monsieur Georges, c'est une des lois de la nature. Hein. Plus nous descendons vers le sud, moins les gens aiment travailler.
C'est vrai ça. Dans le nord, on bosse, dans le sud, on se les roule.
Mais cette année, les choses vont déraper. Georges est attiré par Brigitte, la fille des Colin, et alors qu'elle essaie d'échapper à ses avances, il la tue. Et de ce point de départ, qui aurait pu déboucher sur un polar classique, Boisset va tirer une étouffante chronique sociale. Car loin d'assumer son crime, Lajoie va laisser accuser des ouvriers algériens qui travaillent sur un chantier voisin, et même se joindre à leur lynchage.
Allons-y, ramassez les gourdins. Faut se méfier de ces mecs-là.
Avec Dupont-Lajoie, Boisset propose une œuvre éminemment politique qui n'a pas pris une ride, à l'image d'une filmographie bourrée de pépites à redécouvrir.
Allez, troisième version de l'entrave à la création et deuxième censure, cette fois sous couvert de pidibonderie. En fait, le réel sujet du film, c'est le crasseux racisme ordinaire. Tiens donc. Le film a 50 ans et pas une ride. Retour à jamais sur vos écrans.
Alors, il y a même des cas qui montrent bien la stupidité et la perversité des gens qui acceptent de participer à un organisme de censure, quel qu'il soit, c'est ce qui est arrivé avec Dupont-Lajoie. Alors, le film avait été interdit dans un premier temps aux moins de 16 ans, et ils m'ont dit, écoutez, si vous faites un effort, on peut descendre des moins de 16 ans aux moins de 13 ans, à condition que vous coupiez les plans où on voit le sexe de Isabelle Huppert. Je savais très bien qu'on ne pouvait pas voir le sexe de Isabelle Huppert, pour la bonne raison que quand on a tourné la scène du viol, elle avait toujours gardé sa culotte. Donc, il était parfaitement exclu qu'on puisse voir son ventre. Donc, j'ai pris la copie, on a pris des ciseaux, on a mis un bout de scotch, je n'ai pas coupé une image, pas un photogramme. On leur a remontré le film, ils disent, bon, vous avez fait un effort, effectivement, vous avez coupé ce qu'on vous a demandé, et le film n'a été interdit qu'au moins de 13 ans. Ce qui montre, d'une part, la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi, non, la bêtise. La bêtise plutôt que la mauvaise foi. Et en même temps, la perversité des censeurs, qui sont des cochons, qui sont, eux, des pornographes. C'est clair.
Une des grandes pépites du film, c'est le casting où trônent des comiques et stars de l'époque, tous à contre-emploi. Jean Carmet, Pierre Tornade, Robert Castel et son accent pied noir, Marielle, Ginette Garcin, Pascal Roberts. Le must pour faire réfléchir en divertissant.
Ah, j'arrête là, déjà. Pierre, sort.
Monsieur.
Deux bouteilles de ce que vous avez plus frais, mais en vite. Hein. J'ai deux sépêches. Voilà.
Dites-donc, elle danse drôlement bien, la petite. On voit qu'elle a l'habitude, hein.
Ils ont raison, les jeunes. Nous aussi, qu'est-ce qu'on a pu danser, nous, hein.
Dis donc, ça nous arrive encore de temps en temps. C'est moi qui lui ai appris, elle avait pas encore 12 ans.
Viens, papa. Vas-y, chante. Viens leur montrer ce que tu sais faire. Bah alors, monsieur Georges, vous voulez pas danser?
Et donc la toute jeune Isabelle Huppert qui a 21 ans à peu près.
Vous avez vu les Arabes? C'est tout de même incroyable. Il y en a partout maintenant.
En tout cas, s'ils peuvent entrer ici, ça prouve qu'on les baille bien.
Attention! Le moucheux!
trois mousses.
Faut en faire attention, non? Ça va pas la tête. Non mais ça va pas la tête.
Non, peux-tu?
Alors on se croit tout perdu maintenant. C'est toi qui vas le payer le pantalon, non?
C'est pas ma faute. Bon.
Tu t'excuses?
C'est la danse.
Non mais si on les laissait faire, mon vieux, mais il nous marchait sur la gueule, les bico.
C'est la danse.
Tu fous le camp, je t'accompagne à coups de pompe dans le cul.
Excuse-moi, monsieur, s'il vous plaît. Hein?
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle a des bico?
N'aie pas peur, n'aie pas peur.
Alors, qu'elle a des bico? Calmez-vous, allons.
Il n'y a pas quelqu'un pour appeler la police? Appelez la police!
C'est fini, non?
La police arrive et raccompagne ces messieurs du BTP, payés au noir, à leur baraquement insalubre.
Je crois que c'est l'histoire d'un jeune juge qui, dans un contexte extrêmement difficile, qui est celui de la société française en 1977, essaye, au péril de sa carrière, et même au péril de sa vie, puisqu'il y laisse la vie, de parvenir à la vérité et d'imposer sa vérité malgré toutes les pressions. Et si vous voulez, c'est un film qui n'est pas contre une certaine justice, qui au contraire est pour une justice avec un grand J, pour une vraie justice.
Quatrième et dernier film évoqué aujourd'hui, Le juge Fayard dit le shérif. À défaut d'avoir répondu à l'invitation de Radio Alpa, Yves Boisset était interviewé par Christian Defaille pour Spécial Cinéma à la RTS en février 1977.
Quand je préparais ce film, la nouvelle du meurtre du juge Renaud à une belle nuit de juillet 1975 a été une sorte de détonateur, puisque si on peut encore s'interroger sur les véritables mobiles du meurtre du juge Renaud et sur la personnalité, non pas des assassins, je crois que les assassins, tout le monde les connaît, et leurs noms ont même traîné dans la presse française, mais des gens qui ont téléguidé ces assassins, peu importe qui est le pâle petit voyou qui a appuyé sur la gâchette. Ce qui est important, c'est de savoir quel est le portefeuille ou quel est le cerveau qui a commandé ce bras. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui mérite une analyse politique, une analyse sociologique.
Bien précise, comme dans la plupart de ses films, les à côté, les pourquoi, comment.
Après la présentation du film, quelques vieux rhumatismes d'extrême droite se sont réveillés dans certains milieux.
Oui, les polices parallèles qui n'existent pas, comme chacun le sait, au moins cette affaire a eu l'avantage de prouver qu'elles existaient, puisqu'elles ont été jusqu'à se manifester en justice.
Résultat ?
Bien, résultat, il y a une association régie par la loi de 1901, le SAC, Service d'Action Civique, pour ne pas la nommer, qui a cru se reconnaître en termes qu'elle juge péjoratifs dans un ramassis, puisque là je reprends ses propres termes, en laissant la responsabilité de ce qu'il a dit au président de cette association, M. de Bizet, qui a cru se reconnaître dans le ramassis de truands, de proxénètes, d'assassins, de policiers corrompus et de politiciens véreux qui étaient présentés dans le film. Il a cru y reconnaître ses membres et dans une certaine mesure lui-même. Je laisse l'entière responsabilité de cette affirmation et il nous a assigné en référé pour essayer d'empêcher la sortie du film. Il n'a pas tout à fait réussi à empêcher la sortie du film puisque il a simplement obtenu d'une justice extrêmement complaisante un certain nombre de coupes destinées à théoriquement occulter le rôle du sac dans l'histoire. Cela dit, comme toujours, vous savez, quand on pisse contre le vent, on s'expose à de graves ennuis, et la célèbre autruche qui mettait sa tête dans le sable, on n'en a pas moins reçu de très nombreux coups de pied dans le cul. Et c'est un peu ce qui est arrivé à M. de Bizet et à son association de 1901, le Service d'Action Civique, puisque s'ils cherchaient à être discrets, je crois qu'ils ont gagné, puisque s'il y avait encore des Français qui ignoraient les méfaits du sac, maintenant au moins ils sont parfaitement au courant.
Alors, méthode pour jouer de la censure, deuxième.
Chaque fois que le mot « sac », c'est-à-dire cinq ou six fois dans le film, était prononcé, on donnait un coup de poisson dans la bande sonore, ce qui faisait que quand le film passait dans le projecteur, ça donnait « mais enfin, monsieur machin, vous étiez bien membre du… » Bip ! Comme la presse avait relayé abondamment l'information, dans les salles, tous les gens hurlaient « Sac, salaud !»
D'ailleurs, je ne vous cacherai pas que le producteur a envoyé une corbeille de fleurs à l'avocat du service d'action civique pour le remercier de toute cette publicité gratuite qu'on nous offrait chaleureusement.
Le regretté Patrick Devers. Ah, et ajoutons que dans le sac figurait, il me semble, un fameux représentant d'Anisette, un certain Charles Pasqua.
Oui, enfin, ça, si vous voulez, l'affaire du shérif est importante et grave dans la mesure où elle montre exactement les limites de ce qu'on peut faire en France. Effectivement, si en Amérique vous faites les hommes du président, que vous appelez un chat, et la CIA, en montrant la CIA organisée sciemment, en parfaite connaissance de cause, en citant précisément les noms d'un certain nombre de fonctionnaires responsables et encore actuellement en poste, le film sort et personne ne s'en offusque. Quand vous faites en Italie l'affaire Mattei de Francesco Rosi et que vous impliquez dans le film, dans le rôle qu'ils ont effectivement joué dans la réalité, des hommes politiques encore en activité, vous en avez parfaitement le droit. En France, lorsque vous montrez le sac comme ce qu'il est, c'est-à-dire une association dont un très grand nombre de membres ont été impliqués dans les grandes affaires criminelles et politiques des 10 dernières années, vous vous heurtez à une impossibilité totale. Votre film risque de ne pas sortir, risque d'être complètement interdit. Dans le meilleur des cas, ce qui nous est arrivé, se trouve amputé d'un certain nombre de courtes séquences et se trouve mutilé.
Sauf dans la version que nous pouvons voir en Suisse où le film est intégral.
Oui, pour l'instant, en Suisse, le film est présenté dans sa version intégrale et je fais confiance à la démocratie helvétique pour le laisser dans sa version intégrale.
Jean Bouise est le supérieur du juge Fayard, Devers.
Vous avez arrêté un directeur de société, c'est-à-dire un homme important pour la vie économique de la région. Par ailleurs, rien dans son passé ne justifie que vous lui appliquiez des mesures exceptionnelles. C'est un honnête homme.
Exceptionnel. Je vous demande pardon, monsieur le procureur, mais...
Écoutez, Fayard, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Si j'ai l'air d'empiéter sur vos prérogatives, c'est que j'ai des responsabilités, moi aussi. Le garde des Sceaux a trouvé cette arrestation surprenante. Le Conseil national du patronat français est intervenu. Le député Chalabert a fait une démarche. Bon, bien entendu, c'est votre affaire et vous êtes seul juge, mais j'espère que vous avez un dossier bien fourni.
Ah, très bien fourni, monsieur le procureur. C'est le quatrième accident mortel en 3 ans dans l'usine Camus. Et par ailleurs, tous les rapports de l'inspection du travail démontrent que depuis plusieurs années...
Bon, écoutez, s'il vous plaît, épargnez-moi cette énumération. Ce que je trouve inopportun, c'est la détention préventive.
Je ne fais qu'appliquer la loi. Il y a tous les ans en France 35 000 personnes en détention préventive et personne ne s'en émeut. Surtout quand il s'agit d'un Nord-Africain qu'on relâchera 6 mois plus tard, faute de preuves, avec un non-lieu.
Eh bien, non-lieu ou pas, vous ne garderez pas M. Camus en prison pendant 6 mois. Je vous en réponds.
Et une indépendance vis-à-vis du pouvoir, pensez-vous ?
Parfois, oui. Si vous voulez, je pense que c'est particulièrement évident avec l'action du syndicat de la magistrature. C'est-à-dire tous ces jeunes magistrats qui, parfois au risque de leur carrière, s'affirment indépendants des pressions du pouvoir ou des pressions de tel ou tel groupe politique.
À la sortie du film, succès commercial, Yves Boisset est violemment agressé devant chez lui à Paris.
Il est parfaitement clair qu'il s'agit d'une atteinte tout à fait intolérable à la liberté de création.
Comment ça ? En 77, un juge assassiné parce que juge ayant appuyé sur la vérité ? Et un artiste inquiété pour en avoir fait une fiction ? C'est impensable aujourd'hui. J'espère bien. Quoique. Bref, ainsi va se terminer la 16e visite de la saison 8 du Panthéon décousu sur Radio Alpa, rediffusion le lundi midi et le jeudi à 17h30, réécoute libre sur les bonnes plateformes et à la page de l'émission sur radioalpa.com. Mais ne les quittons pas sans musique et sans ce très beau thème composé pour ce shérif par Philippe Sard, décidément toujours merveilleusement inspiré. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa, et d'ici là, le cinéma n'est qu'un bon moyen de mettre des étoiles sur la crasse du monde environnant.
C'est aussi un film, c'est même, je dirais, avant tout un film. Parce que moi je crois que le cinéma est avant tout un spectacle, et avant, si vous voulez, de proposer une réflexion au spectateur, je pense qu'il est important de lui proposer un spectacle. Et au premier degré, Le Shérif est un film policier extrêmement mouvementé. Je crois qu'il y a quelqu'un, si vous voulez, qui s'en est expliqué beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, c'est Bertolt Brecht, qui a dit « Plus vous avez quelque chose d'important à dire aux gens, plus vous voulez les amener à se poser des questions sur quelque chose d'important, plus il faut utiliser toutes les armes du spectacle, c'est-à-dire l'action, l'aventure, l'humour, le comique, etc. » Et je crois que Si vous voulez, la meilleure définition qu'on puisse donner du cinéma, au moins du cinéma tel que je l'espère, tel que je le rêve, c'est d'être avant tout un spectacle extrêmement distrayant et qui, en plus, si vous voulez, en prime, comme un œillet à la boutonnière d'un smoking, vous donne l'occasion de réfléchir.
Balle dans le ventre. Vous savez ce que ça veut dire? La mort des traîtres.
Si six mois je le coince aujourd'hui, Marcheron, ce dossier, on va le ressortir. Il n'y aura pas que celui-là.
Et si l'affaire Marcheron gêne autant de monde, c'est qu'elle pourrait bien déboucher sur une affaire beaucoup plus importante.
Non, lieu ou pas, vous ne garderez pas M. Camus en prison pendant six mois.
Ça, s'ils veulent que ça s'arrête, faudra m'enlever le dossier.
Devant, est-ce que vous êtes bien qualifié pour instruire une affaire aussi délicate?
Faites attention, vous mettez les pieds. Hein. Si vous faites une boulette, moi je ne vous connais plus.
Arrête tes conneries, un peu lourd. Hein.
Dans l'esprit, on connaît beaucoup de gens.
L'argent passe dans la machine à laver des banques suisses et peut ensuite réapparaître au grand jour dans des affaires légales.
J'ai pas envie de te parler, alors je te rappellerai pas.
J'ai là de quoi me
faire un scandale.
Oui, peut-être.
Après celui-ci, nous en trouverons un autre, et puis un autre encore.
Fayard, nous rendons la justice. Péniblement. Douloureusement. Jour après jour, nous colmatons quelques brèches, mais nous ne pouvons pas transformer l'humanité.
On peut toujours essayer.
EuroTV qui vous réglera vos honoraires. Vous y gagnez. Parce que ils sont moins radins qu'à l'ERTF. Au revoir.